toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Violette Voldoir, Caroline Bonin, mais aussi Samuel Bernard, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde par Thibaut Germèze. Deuxième temps de notre semaine consacrée à la politique étrangère de la France. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'accord de Paris sur le climat entre réussite diplomatique et menace de l'administration Trump.
Nous allons sauver l'industrie du charbon. Nous allons sauver cette industrie. Croyez-moi, nous allons la sauver. J'adore ces gens. Ce sont des gens géniaux. Nous allons annuler l'accord de Paris. Et nous allons arrêter toutes les aides venant des taxes de notre pays et qui alimentent les programmes dédiés au réchauffement climatique des Nations Unies.
Les États-Unis, première puissance économique du monde, deuxième émetteur de gaz à effet de serre, doivent respecter les engagements qui ont été pris. La France, je vous l'assure ici, mènera ce dialogue avec les États-Unis et son nouveau président dans l'ouverture, dans le respect, mais avec exigence et détermination.
Donald Trump, le 28 mars dernier, et la réponse ferme de François Hollande, le président français qui avait salué l'entrée en vigueur de l'accord de Paris le 4 novembre dernier comme un moment historique. Cet accord, conclu en décembre 2015 entre 190 pays pour limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, devait être l'une des plus grandes réussites diplomatiques du quinquennat. Mais voilà que l'administration Trump menace de remettre en cause un engagement acquis de haute lutte au terme de longues et laborieuses négociations. Le président américain a signé le 28 mars un décret baptisé « Energy Independence », objectif, bloquer la mise en œuvre du Clean Power Plan de Barack Obama, qui imposait aux centrales thermiques des réductions drastiques de CO2, conformément aux engagements pris par les États-Unis lors de la COP21. Donald Trump, qui a également annoncé le retour du charbon et la relance de la production des énergies fossiles. Pour le président américain, pas question d'être soumis à des règles au nom du réchauffement climatique, cette invention des Chinois pour miner la compétitivité de l'industrie américaine, comme il l'a déclaré lui-même pendant la campagne. Alors, quelles conséquences la sortie des États-Unis de l'accord de Paris pourrait-elle entraîner? Washington a-t-il d'abord les moyens de renoncer à cet engagement? Et n'y a-t-il pas le risque que d'autres pays se laissent entraîner dans le sillon des États-Unis? Avec quel impact sur la planète alors que les scientifiques estiment déjà que l'objectif de 2% est largement insuffisant? Avec nous pour en parler ce matin, deux invités. D'abord, Ami Dahan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en duplex d'Avignon. Vous êtes historienne des sciences et directeur de recherche au CNRS et au Centre Alexandre Coiré. Et avec nous en studio, David Levaille. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci également d'être là. Vous êtes directeur du programme Climat à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Et vous faisiez partie de l'équipe des négociateurs du ministère des Affaires étrangères pour la COP21. Alors, le président Trump doit se prononcer avant la fin du mois de mai, date du G7 en Italie, sur son maintien ou non dans l'accord de Paris. On n'est pas à l'abri d'un revirement inattendu, mais étant donné la teneur de ses discours de campagne, il y a de grandes chances pour que le président américain cherche à sortir de l'accord, Ami Dahan.
Oui, c'est assez vraisemblable. Aujourd'hui, nous sommes dans un déni de sa part du changement climatique. C'est un retour spectaculaire des forces climato-sceptiques aux États-Unis qui ont toujours caractérisé le camp républicain et qui maintenant s'affirment avec impudence. Donc il est vraisemblable qu'il va persister et signer dans la déclaration qu'il a faite en mars.
David Levaille, c'est également votre avis ?
Ça va pas être si simple de se sortir de l'accord de Paris. Il y a des règles juridiques qui s'appliquent, puisque l'accord de Paris est rentré en vigueur quelques jours, heureusement, avant l'élection de Monsieur Trump.
Le 4 novembre.
Le 4 novembre, il a été élu le 9. Si bien qu'il y a un certain nombre de clauses qui fait que s'il enclenchait, même dès aujourd'hui, sa demande de retrait de l'accord de Paris, ce ne serait effectif que 4 ans après ce 4 novembre donné. Donc ce serait le 4 novembre 2020, quelques jours avant ou après la prochaine élection présidentielle américaine. européenne. Ça n'empêche pas qu'il peut quand même lancer ce signal-là qui serait très fort. Néanmoins, ça ne va pas être aussi simple que d'un trait de crayon comme il le fait avec ses décrets américains.
Et l'accord a été pensé pour cela, pour qu'il y ait un temps de réflexion, en l'occurrence 4 ans, vous l'avez dit, avant de pouvoir en sortir.
Effectivement, il a été pensé pour ça, mais pas particulièrement pour anticiper ce cas-là. C'est assez standard pour les accords internationaux qui couvrent un certain nombre de pays.
Donald Trump pourrait aussi dénoncer purement et simplement la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, sous l'égide de laquelle sont placés les textes internationaux. Ça vous semble possible, Ami Dahan ? Ce serait tout de même le pire scénario ?
Ce serait le pire scénario, effectivement. Mais je crois qu'il faut prendre un petit peu de distance avec ce qui se passe en ce moment. D'une certaine façon, les Nations Unies, mais aussi la Convention cadre sur le changement climatique, toutes ces entreprises internationales étaient quand même fondées sur l'idée que nous avons un monde commun, qu'il faut partager, et que voilà, l'alerte... qui avait été développé par les scientifiques sur le cas précis du changement climatique, avait enfin porté d'une certaine façon, était monté à la conscience internationale de plus en plus et avait connu cette manifestation exemplaire de consensus en 2015. Mais je crois qu'aujourd'hui, la situation actuelle du déni du changement climatique, et on en parlera, il n'y a pas que Trump, il y a aussi Poutine, il y a aussi d'autres, et la vague populiste internationale qui se développe partout. Il faut quand même voir ça. Elle manifeste cette idée, je crois, dont il faut prendre conscience, c'est que un certain nombre d'élites des mondialisées ou nationales dans le monde considèrent que finalement la planète, elle peut pas être partagée. La situation est trop difficile. Chacun a ses égoïsmes nationaux et il y a rien à partager du tout. Et donc on sonne le halali. Donc aux États-Unis, il y a à la fois un double mouvement de fuite, c'est-à-dire de protection pour les plus riches qui vont aller ce qu'on appelle 1% des 1%, ceux qui vont vraiment aller vers la richesse et la protection des plus riches, et puis tous les autres, ceux qui à qui on propose de se replier nationalement et les protections qui sont aujourd'hui imaginaires. Et de fait, les limites de la planète que le changement climatique dont le changement climatique est la manifestation la plus éclatante, eh bien, il s'agit de ne pas en tenir compte et voilà, de les nier.
Restons encore un peu sur l'accord de Paris. Le plus probable, David Levaille, c'est que Washington va rester dans cet accord, mais va le vider de sa substance. C'est ce que veulent par exemple Ivanka Trump et son mari Jared Kushner, qui ont l'oreille du président, ou encore Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des forces différentes qui sont à l'œuvre aux États-Unis et que malgré ces diatribes très anti-onusiennes qui sont cohérentes avec les prises de position sur l'accord de Paris, les États-Unis n'ont pas encore décidé de se retirer alors qu'ils ont fait des gestes très symboliques, très rapides et l'administration pour l'instant est encore dans l'attente. Ça veut dire que c'est pas si simple et ils savent que se mettre au banc des nations, sortir d'un accord comme ça qui a fait une sorte de consensus, qui a lancé un mouvement très fort d'union sur la gestion des biens communs, comme l'expliquait Ami Dahan, va mettre les États-Unis au banc des nations et que ça aura des répercussions diplomatiques, économiques complexes. On l'a vu à l'époque de George Bush qui était sorti, enfin qui avait refusé de ratifier l'accord de Kyoto. Ça lui avait coûté cher en termes diplomatiques à la fin des dernières années de son mandat. Et donc, il est effectivement plus probable qu'il préfère rester à la table pour pouvoir un peu contrôler ce qui s'y passe et avoir une voix dans le débat international. Néanmoins, être en mesure pour les États-Unis seuls de détricoter, de défaire un accord aussi complexe qui est en train d'être mis en œuvre me paraît encore une distance compliquée à parcourir et on en est assez loin. Et heureusement, il y a d'autres forces à l'œuvre qui vont éviter ça ou qui vont faire en sorte de corneriser les États-Unis dans ces discussions-là.
Mais si les États-Unis décidaient tout de même de sortir de l'accord, quelles pourraient être les conséquences ? Est-ce que le risque, ce n'est pas que ça entraîne un certain nombre de pays, Ami Dahan, qui étaient déjà réticents, comme l'Australie, le Japon ou la Pologne, dont l'économie dépend du charbon ?
Bien sûr que c'est un signal très mauvais, parce qu'il faut bien quand même, on peut reparler de l'accord de Paris, dont je ne m'estime pas du tout l'importance, hein, entendez-moi bien. Mais je crois quand même qu'il faut savoir que l'accord de Paris n'était pas contraignant. Toute la philosophie de la construction de l'accord, qui avait commencé d'ailleurs 4-5 ans avant, depuis la plateforme de Durban, cette idée de partir vers le bas, de ce que les pays sont prêts à faire, ceux pour lesquels... ce pourquoi ils s'engagent, hein, c'est ça aussi la nouveauté, le caractère novateur de cette construction qui est allée vers le consensus de 2015. Eh bien, tout cela, ça veut dire que rien n'est contraignant et que finalement, on gouvernait par des signaux forts donnés et un petit peu de façon incantatoire, comme l'a dit d'ailleurs Stéphane Aïkout. Il s'agit de répéter que c'était un peu une prophétie autoréalisatrice parce que tout le monde le voulait et que ça allait enclencher des dynamiques positives.
Alors, David Levaille n'est pas d'accord.
Ce signal, oui, je comprends qu'il ne soit pas d'accord, mais là, si vous voulez, c'est un signal négatif. Alors, sinon, j'ajoute, avant de lui laisser la parole, c'est que, d'une certaine façon, ce qui est aussi, dont on avait quand même conscience aussi après l'accord, et qu'avait même donné la presse et tous ceux qui avaient été à la manœuvre, c'est que le relais était aussi au gouvernement. Comment l'accord peut être mis en œuvre par les gouvernements, par les politiques publiques locales, domestiques, régionales, etc., par les entreprises. L'international a été un peu allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait aller, étant donné qu'on ne pouvait pas avoir un accord véritablement contraignant et ambitieux. Donc là, le relais était donné aux États. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord un petit peu avec l'idée que il peut détricoter des choses, mais il ne peut pas détricoter tout si ailleurs il y a des volontés, si des sociétés civiles se manifestent, si des entreprises qui sont engagées, et il y en a qui sont engagées, bon, continuent à le faire. C'est un très mauvais signal, mais tout n'est pas forcément par terre.
David Levaille, vous vouliez réagir?
Oui, je suis assez d'accord avec tout ce que dit Madame Dahan, à une petite exception près. Mais effectivement, il faut bien séparer ce que c'est que la force diplomatique, la puissance publique et le lancement d'un grand mouvement pour aller vers une décarbonation complète de nos économies d'ici la fin du siècle, de mettre tout le monde dans cette dynamique-là, les pays en développement comme les pays industrialisés. Et que effectivement, on a atteint entre guillemets une certaine limite de la capacité d'action de ces États-là, et maintenant on rentre dans la mise en œuvre qui passe par des acteurs locaux, des entreprises, des individus, des syndicats, c'est-à-dire une bascule où l'économie est en train de se transformer à grande vitesse avec un appui fort des technologies. Néanmoins, je vais juste corriger le fait que l'accord de Paris n'est effectivement pas contraignant sur le montant et sur les engagements qui sont pris par les États, sur les chiffres qu'ils ont annoncés comme réduction d'émissions. En revanche, il est contraignant et fortement contraignant sur un certain nombre de règles. Et c'est tout l'enjeu, c'est que ces règles soient là, des règles de transparence pour qu'on puisse mesurer les émissions correctement dans tous les pays, en incluant des pays où ça n'a pas toujours été facile de le faire, comme la Chine, mais aussi des règles de la règle de la promesse de l'accord de Paris, qui est ce cycle dynamique où tous les 5 ans, les pays doivent revenir avec de nouveaux engagements. Effectivement, ils ne seront pas tenus sur ces engagements-là. En revanche, ils seront obligés de resoumettre des plans climat, et donc de les réaliser en collaboration avec les États fédérés aux États-Unis, les régions en France, les villes, les territoires et les entreprises.
En sortant de l'accord de Paris, les États-Unis risquent de remettre en cause la pierre angulaire de cet accord, c'est-à-dire la solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud, qui ne se sont engagés qu'à la condition que les pays développés s'impliquent financièrement dans leur croissance verte. Écoutez à ce propos Narendra Modi lors de son discours à la COP21 en décembre 2015.
Over the next few days, we will decide the fate of this planet.
Lors des prochains jours, nous allons décider de l'avenir de ce pays. Nous faisons cela quand les conséquences de l'âge industriel s'appuyant sur les énergies fossiles sont évidentes et surtout au détriment des pauvres. Les industries prospères ont une empreinte carbone forte et les milliards de pauvres recherchent de l'espace pour croître.
Are seeking space to grow.
Les pays développés doivent assumer leurs responsabilités pour produire une énergie propre, disponible, abordable et accessible au monde en développement. Ceci relève de l'intérêt collectif de regarder vers les pays développés afin qu'ils mobilisent des centaines de milliards de dollars.
On le voit, les pays en développement en appellent à la responsabilité des pays industrialisés. C'était donc Narendra Modi, le chef d'État indien. Ami Dahan, est-ce que vous pensez que ça va être un problème dans la mesure où ça a été déjà effectivement très très compliqué de pousser l'un et d'autres pays en développement à rejoindre cet accord ?
Oui, je pense que l'Inde, c'est un des problèmes les plus majeurs pour l'avenir à la fois de l'accord et de la mise en œuvre des efforts. Parce qu'elle a été très dure dans les dernières années. Elle a toujours été très dure dans les négociations, l'Inde. Elle n'avait pas, même quand la Chine a pris un petit peu le leadership des pays en développement du G77, etc. Et d'une certaine façon, a préparé avec Obama, a donné des signaux que cette fois, il voulait y aller, etc. Bon, pour l'Inde, c'était plus difficile parce que elle a besoin de s'industrialiser, elle veut s'industrialiser, elle a une démographie encore très importante, beaucoup plus importante que celle de la Chine, et elle a un développement urbanistique chaotique, il faut bien le dire. Et d'ailleurs Modi, le chef de l'État indien, enfin rencontre beaucoup de... il y a beaucoup de problèmes en Inde. Ce n'est vraiment pas un pays qui dont le développement va de soi et dont les politiques à la fois de sociales, etc., sont relativement désastreuses. Il faut bien quand même reconnaître ces choses-là. Et la France, par exemple, et à Paris, etc., avait déployé beaucoup d'efforts du point de vue de la présidence de la Convention pour rassurer l'Inde et garantir un peu des plans d'investissement, et c'était ça aussi l'idée. Donc comment déplacer des masses financières qui sont aujourd'hui bloquées soit dans des directions spéculatives de l'immobilier, etc., dans les pays occidentaux, vers des investissements d'infrastructures, etc., de décarbonisation de l'industrie et du développement dans ces pays-là. Ça, c'était stratégique comme question. Et le signal qu'envoie Trump, et s'il est suivi par beaucoup d'entreprises internationales et multinationales, eh bien là, c'est très très mauvais. Parce que l'Inde, elle n'a que du charbon sur son territoire, elle n'a pas d'autre énergie, et elle va l'utiliser massivement si on ne l'aide pas à investir dans les renouvelables, par exemple.
On va revenir à la transition énergétique en Inde un peu plus tard, Ami Dahan, mais d'abord, je voudrais qu'on revienne à ce détricotage que Donald Trump est en train d'effectuer par rapport à l'héritage d'Obama. Il y a deux semaines, le président Trump a signé un décret sur l'indépendance environnementale qui remet en cause plusieurs dispositions du Clean Power Plan d'Obama, comme la contrainte pour les centrales thermiques de réduire de 32% leurs émissions de CO2 à l'horizon 2030 par rapport à 2005. Le même jour, Trump a donc annoncé la fin de la guerre contre le charbon et la fin de l'interdiction d'ouvrir des nouveaux centres d'exploitation de charbon au nom de l'emploi. C'est une décision évidemment dangereuse pour l'environnement, mais aussi et surtout peut-être irrationnelle sur le plan économique, David Levaille.
Irrationnel, ça me semble surtout être une illusion, voire un mensonge de l'administration Trump, qui se positionne pour des raisons idéologiques dans le soutien à cette industrie-là. Néanmoins, l'impact devrait être assez restreint, dans le sens où le Clean Power Plan avait lancé un signal très fort sur le fait que les États fédérés américains, qui sont responsables de leur fourniture énergétique, mettent en place une transition progressive vers des énergies moins polluantes. Et donc, le prix des énergies renouvelables a diminué très fortement, le prix de l'installation, la qualité des technologies a augmenté rapidement. Et donc, aujourd'hui, on en est à un niveau de compétitivité économique entre des kilowattheures produits avec du solaire ou de l'éolien aux États-Unis et produits au charbon. Donc ce décret ne va pas créer un seul nouvel emploi dans le charbon. Ça va éventuellement freiner la fermeture de certaines centrales dans des endroits où il y aura moins de pression à la transition. Néanmoins, ce qui est intéressant de regarder, c'est que c'est dans les États les plus conservateurs et les plus républicains que les énergies renouvelables progressent le plus vite, notamment l'éolien.
Au Texas.
Au Texas, c'est l'État dans lequel la quantité installée de mégawatts éoliens est la plus importante aux États-Unis. L'Iowa, qui est un État qui est très fortement républicain aussi, et ces deux États ont combattu le Clean Power Plan devant les cours américaines pour des raisons à nouveau idéologiques, mais dans leur considération économique quotidienne de fournir de l'électricité la moins chère possible à leurs industries et à leurs consommateurs, ils ont fait le choix des énergies renouvelables parce que ça crée plus d'emplois, parce que c'est plus avantageux économiquement. Donc on est surtout dans l'affichage.
Vous parlez du rôle des États aux États-Unis. Je vous propose d'écouter Jerry Brown, le gouverneur de la Californie.
Some people say that they're going to turn off the satellites that are monitoring the climate, low Earth phenomena, the Landsat and all the various measuring satellites that we have. Well, I remember back in 1978, I proposed a Landsat satellite for California. They called me Governor Moonbeam because of that. I didn't get that moniker for nothing. And if Trump turns off the satellites, California will launch its own damn satellite. We're going to collect that data.
La Californie va lancer ses propres satellites. Jerry Brown qui propose donc d'envoyer ses satellites pour collecter les données climatiques après la proposition de Trump de supprimer les programmes de la NASA qui surveillent le réchauffement climatique. Ceux qui ont été aux avant-postes de la transition énergétique aux États-Unis, on l'a dit, ce sont les villes et les États. Quelle peut être aujourd'hui leur marge de manœuvre pour lutter contre la sape des mesures climatiques par la nouvelle administration à Midahan, continuer à investir dans les énergies renouvelables, comme l'a dit David Levaille?
Bah oui, je crois que c'est clair que, bon, bien sûr que la Californie est l'État par excellence qui investit dans les énergies renouvelables, dans les nouvelles technologies de façon aussi générale, c'est-à-dire les technologies du numérique, etc., veut combiner ces technologies du numérique avec les efforts de décarbonation, de réduction de consommation énergétique, etc. C'est tout ce qui est les smart grids et tout ça. Donc c'est sûr que, et puis la Californie à d'autres problèmes écologiques dont elle est auxquels elle est confrontée, en particulier le problème de l'eau et de la sécheresse. On sait très bien qu'il y a eu des incendies spectaculaires au cours des dernières années, de plus en plus importants, et qui préoccupent les autorités de cet État. Donc, il y a cela. Je crois qu'il, bien sûr, qu'il, pourquoi est-ce que un certain nombre d'États vont réagir dans le sens que disait mon collègue Levaille, mais en fait, c'est le signal qui est très grave quand même. Le signal, en particulier, par exemple, si Trump autorise le fameux pipeline que Obama avait suspendu entre le Canada et le Golfe du Mexique pour évacuer, et commercialiser les nouveaux carbures canadiens, eh bien, ça, c'est quand même quelque chose qui, d'une part, relance la production de ces énergies carbonées, et puis freine le développement des autres.
Oui, ce que vous dites, c'est que la résistance existe chez ce qu'on appelle, dans le langage, dans le jargon de l'ONU, les acteurs non étatiques, les ONG, les villes, les entreprises, mais ça risque de ne pas être suffisant. On a entendu, par exemple, Nike et Starbucks qui ont, par exemple, demandé en novembre à Trump de ne pas sortir de l'accord de Paris. Évidemment, une forte mobilisation des ONG, des villes, les maires de Seattle, San Francisco, Los Angeles et bien d'autres villes encore se sont également exprimées dans ce sens. Il y a une vraie résistance qui ne suffira pas à Midahan, c'est bien cela.
Non, ce que je crois, c'est que c'est une véritable bataille. Et il faut bien se rendre compte que l'accord de Paris, c'était un pas, mais que c'était quand même un accord, je dirais, beaucoup encore sur le papier. Et donc, tout était dans la mise en œuvre. Tout est dans la mise en œuvre. Et malheureusement, nous sommes dans une course de vitesse entre la dégradation du climat et les efforts pour changer les trajectoires. Et donc là, la bataille, nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre, c'est sûr, la guerre contre la dégradation climatique, mais là, c'est très grave ce qui se passe. Et je crois qu'il faut donner aussi des visions très, très, très larges du problème, comment il s'inscrit, parce que on va parler aussi de ce qu'il faut faire dans tous les États, dans toutes les politiques domestiques. Tout ne passe pas par l'accord international. quel que soit ce qu'on peut en penser, mais il ne peut pas débloquer l'ensemble des politiques publiques, domestiques et régionales dans le monde entier.
Il y a quand même des raisons d'espérer, Ami Dahan, la compétitivité croissante des énergies renouvelables. Plus de 160 gigawatts de capacité ont été installés dans le monde en 2016, c'est 9% de plus en un an, ce qui représente un nouveau record. Puis aussi l'inexorable déclin du charbon, malgré les annonces de Donald Trump au profit du gaz. Un rapport de l'association Encol montre qu'en 2016, le nombre de nouveaux chantiers dans le monde a diminué de 62% et une centaine de centrales à charbon sont désormais gelées en Chine et en Inde. Et en Europe, on a vu que les capacités de l'éolien ont dépassé celles du charbon en 2016. Ça nous donne des raisons d'espérer, David Levaille?
Tout à fait, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est que c'est une bataille et que les industries fossiles, mais on pouvait l'anticiper, ont montré qu'elles n'étaient pas prêtes à s'avouer vaincues tout de suite et qu'elles iraient jusqu'au bout, puisque de toute façon elles ont absolument tout à perdre dans cette histoire. Maintenant, ça va être le rôle de, à la fois, des États les plus allants pour créer une dynamique internationale et surtout le rôle de ces sociétés civiles, aussi bien les entreprises que les associations et le public en général, de se mobiliser pour montrer que, il y a une autre voie, montrer aussi qu'il y a une préférence, pour envoyer le message, aux leaders politiques que leur choix est d'aller dans une direction plutôt qu'une autre, c'est la direction du progrès plutôt que la direction du passé. Et on peut avoir aussi une sorte de bonne nouvelle quand on regarde ce qui s'est passé par exemple en Australie. L'Australie est fortement exportateur de charbon, donc effectivement on peut juger que finalement si l'accord de Paris était retardé ou remis en cause, ce serait pas non plus totalement au détriment de l'économie australienne. Et ils ont voulu relancer un certain nombre de projets miniers de charbon dans le nord du Queensland, au nord de l'Australie, pour exporter notamment vers l'Inde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une campagne très forte lancée par un certain nombre d'associations et d'ONG pour attaquer les banques qui finançaient ces industries-là. Et un certain nombre de banques, à cause de la pression publique, du scandale que ça pouvait représenter en termes d'image, un certain nombre de banques ont dû retirer leurs promesses de financement et maintenant ces projets-là sont remis en question et il n'est pas sûr qu'ils puissent aller de l'avant alors que les autorisations administratives et que la volonté était là. Donc ça prouve quand même que il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites, qui peuvent être effectivement une bataille qui doit être menée au quotidien sur le terrain et qu'il est surtout évidemment pas le moment de lâcher prise. L'accord de Paris était la fondation, la première base et maintenant il faut construire dessus.
Mais c'est vrai que ce qui a pu inquiéter, c'est que c'était justement le couple sino-américain qui représente, je le rappelle, 40% des émissions de gaz à effet de serre, qui avait permis de lancer une dynamique autour de ces accords. La Chine et les États-Unis avaient notamment ratifié le même jour l'accord de Paris lors du sommet du G20 à Hangzhou en septembre dernier. C'est ce qui lui a permis d'être définitivement validé. Et là, à Ami Dahan, on assiste tout simplement à la fin de ce leadership sino-américain.
Ah, ça c'est sûr. On sait bien que c'était très très important depuis 2014 pour la réalisation de l'accord et ensuite la ratification, vous l'avez rappelé. Et maintenant on va voir comment la Chine va intervenir, que c'est elle va elle prendre le leadership de la négociation. Moi je considère qu'il y a un rôle extrêmement important pour l'Europe à jouer, à reprendre, parce que l'Europe, la présidence française a été évidemment à la manœuvre et on peut lui tirer notre chapeau pour avoir réussi d'avoir réuni les volontés de 198 pays, malgré évidemment toutes les forces divergentes, etc., qu'on peut imaginer. Bon, mais l'Europe en tant que telle n'a pas été importante, je trouve, dans la question de l'accord, parce qu'elle elle a pas joué un rôle dans les trois dernières années dans les COP terribles, depuis Durban, où elle avait réussi à réunir les pays sur une plateforme et ça avait été très difficile et elle avait véritablement joué son batou et c'était très bien. Mais à Varsovie et dans les COP suivantes, pas grand-chose. Et puis même, à Paris même, il n'y a pas eu d'intervention majeure de l'Europe en tant que telle. Or, l'Europe avait joué un rôle très important dans l'histoire de ce processus international, dont elle avait été une élève modèle et puis une force extrêmement tirant en avant le processus. Et puis après la crise financière de 2007-2008, étant donné aussi toutes les divergences politiques et les faiblesses de sa construction politique qui se manifestent à tous les niveaux, on le sait bien aujourd'hui, eh bien l'Europe, elle était plutôt quand même, je dirais, aux abonnés absents en tant qu'acteur politique, ce qui ne veut pas dire que, bien sûr, elle ne réalise pas des réductions d'émissions sur son propre territoire. Et ça, elle le fait. Elle l'a fait, l'Allemagne, les pays du Nord, les Pays-Bas, etc., la France aussi, d'une certaine façon, ont respecté leurs engagements depuis Kyoto et ensuite, mais elle n'a pas été motrice. Or, elle peut l'être. Elle est quand même, vis-à-vis des pays d'Asie et des pays en développement, un continent développé, mais attracteur. Moi, j'ai voyagé à plusieurs reprises en Chine et j'ai eu des dialogues à Shanghai, à Pékin, avec des gens sur les questions climatiques. Il est évident, par exemple, que les villes européennes les attirent énormément. Ils se posent des questions beaucoup plus que les villes américaines qui sont énormes, tentaculaires, avec la voiture partout, etc. Mais rien ne s'est fait concrètement dans la précision, pour essayer de construire des partenariats, pour avancer, etc. Je crois qu'il faut le faire maintenant, et pas simplement avec la Chine, mais avec tous ces pays d'Asie qui connaissent un développement énorme, y compris urbain et industriel. Et comment quel chemin ce développement va prendre? Si c'est le même que le nôtre exactement, ou le même que celui des États-Unis, évidemment, du point de vue du climat, c'est un échec total.
David Levaille, l'Union européenne devrait assurer ce leadership avec, au premier chef, peut-être la France, même si ce qu'on voit, c'est que le changement climatique reste quand même largement absent des débats de la campagne présidentielle. On a l'impression que le dossier n'est pas vraiment prioritaire pour les candidats. C'est de mauvais augure pour la suite ?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Sur le leadership européen, bien entendu, l'Europe a été leader pendant très longtemps. Elle a été leader sur la mise en œuvre. On vient de le répéter. C'est là où les baisses d'émissions ont été les plus importantes. Et elle continue de l'être. C'est une demande très forte de la population européenne dans son ensemble et un engagement de tous les pays européens à travers les considérations politiques de gauche ou de droite. Et ça va durer. Ça a joué un rôle négatif d'une certaine manière pour l'Union européenne dans une négociation internationale, parce que à quel prix est-elle prête à accepter un accord? Et ben elle était toujours prête à accepter un accord à tous les prix, et donc c'était plus compliqué de jouer un rôle moteur que d'autres pays comme les États-Unis ou la Chine qui montraient bien une nouvelle dynamique, une dynamique qui était différente pour eux et qui était capable de faire un certain nombre de sacrifices d'un côté et de travailler ensemble pour emmener l'ensemble des peuples de la planète. Donc maintenant l'Union européenne doit s'emparer de cette question-là. Elle est un peu empêtrée dans des considérations de leadership assez importantes au niveau bruxellois, dans des questions géopolitiques comme le Brexit ou celle des migrations et des réfugiés, qui fait que ça monopolise un peu tous les débats. Donc c'est difficile pour l'Union européenne de s'entendre et d'avoir une voix forte sur le sujet. Et donc il en va aussi de la France, qui a été le guide, disons, pour arriver à cet accord de Paris, qui a réussi à trouver un équilibre assez ambitieux, et donc maintenant qui doit être la sentinelle, la vigie, pour faire en sorte que les choses avancent. Après, sur la campagne électorale, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que c'est quand même la première campagne présidentielle dans laquelle la grande majorité des candidats abordent la question, non pas la question climatique parce qu'elle semble toujours un peu éloignée des peuples, mais la question de la transition énergétique, de la transformation écologique. C'est un pilier pour Mélenchon, pour Hamon, pour Macron. Marine Le Pen en a parlé. Il y a que pour François Fillon, on parle surtout du nucléaire et assez peu des énergies renouvelables. Mais néanmoins, ils ne peuvent pas ne pas s'exprimer dessus. Et à mon sens, c'est vraiment la première fois. Donc, on a passé un cap quand même dans cette dans ce domaine-là, et je pense que le prochain président ou la prochaine présidente de la France devra, avec la diplomatie française, être aux avant-postes pour s'assurer que l'Union européenne et d'autres continuent ce leadership sur le climat à l'international.
Amit Dhahan, les attaques de Trump finalement sur le climat, est-ce qu'elles ne pourraient pas entraîner cet effet inverse et réveiller l'Europe? Le commissaire européen à l'énergie, Miguel Arias Cañete, a déclaré la semaine dernière aux côtés de responsables chinois, une nouvelle ère a débuté pour le climat et l'Union européenne et la Chine sont prêtes à ouvrir la voie. On pourrait imaginer la Chine et l'Europe mener cette bataille conjointement?
Je le souhaite vivement. Je le souhaite vivement. Oui, je pense que aujourd'hui, les positions de Trump, comme celles d'ailleurs de Poutine, je le répète, hein, parce qu'il a quand même eu des déclarations incroyables sur le climat et l'exploitation des routes du nord de l'Arctique, comme quoi, bon, bah, c'était ça qu'il fallait faire, et puis le climat, il y croit pas non plus, lui. Donc, il y a des deux côtés ces deux puissances qui encadrent d'une certaine façon traditionnellement l'Europe, quoi. L'Europe est entre ces deux pôles, eh bien, aujourd'hui, les deux sont dans le déni climatique. Or, l'Europe, comme l'a rappelé David Leval, a toujours été quand même une force tout à fait proactive sur ce sujet. Aujourd'hui, elle peut effectivement faire des choses avec la Chine et prendre un leadership conjoint. Mais ce que je crois très important, c'est porter aussi l'idée que c'est la mise en œuvre. Ce n'est pas simplement au niveau de la diplomatie climatique. Pendant des années, la diplomatie climatique a été une course de la lenteur. Et j'ai très très peur qu'on revienne à cela. C'est-à-dire des discussions, des choses qui finalement sont sur le papier. Et le schisme avec le monde réel se creuse et se développe. C'est-à-dire la compétition économique vers les choses, les contradictions, si vous voulez, économiques et d'intérêts entre les États font que la cause climatique est toujours mise en arrière, reléguée au second plan. Dans la campagne présidentielle française, je suis d'accord aussi avec David Levaille, il y a pour la première fois un certain nombre d'aspects très novateurs de l'union du social et de l'écologique qui est manifesté au moins par trois des candidats, parce que Marine Le Pen, je n'ai pas vu qu'elle ait véritablement parlé de ça clairement du tout, et voilà, mais je pense que c'est la mise en œuvre des choses. Or, sur la mise en œuvre concrète des politiques, là, c'est toujours le flou, c'est toujours des choses qui sont un petit peu des écrans de fumée.
David Levaille, vous vouliez réagir sur la diplomatie de la lenteur qu'évoquait Amit Dhahan?
Non, je voulais réagir sur la mise en œuvre. Je suis tout à fait d'accord. La Chine est en train de le montrer que sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la transformation du secteur énergétique, des secteurs industriels, du secteur du transport vers des industries beaucoup moins émettrices de gaz à effet de serre, la Chine a un leadership très affirmé. Ils ont investi plus de 100 milliards de dollars l'année dernière, ce qui est plus de deux fois plus que n'importe quel autre pays au monde, plus de deux fois plus que les États-Unis, qui sont autour de 45 milliards. Et donc, ça n'a pas de raison de diminuer. De la même manière, car ils ont bien compris qu'il y avait un avantage de compétitivité économique, un avantage industriel, un avantage en termes de santé des populations, parce que ça devient une demande très 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 pressante en Chine, et donc on veut éviter à tout prix toute forme d'instabilité. En Europe, cette mise en œuvre aussi, elle continue, et donc c'est pour ça qu'on est de fait dans une dynamique différente. Et je ne sais pas si l'Union européenne et la Chine peuvent être vraiment des leaders au sens de tirer des négociations, parce que Amit Dhahan a raison, ça a été longtemps des négociations de la lenteur, donc il fallait les tirer, il fallait les secouer, les agiter. Aujourd'hui, la question est celle de la mise en œuvre. Donc le rôle fort que peuvent jouer la Chine et l'Union européenne, c'est celui de stabilisateur, celui de garant, d'être une force qui rassure et qui montre que malgré la dynamique et les velléités américaines, russes et sûrement d'autres, cet accord international est solide et que eux seront des garants d'un développement plus orienté vers le bas carbone en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, et qui seront des soutiens de ce qui a été décidé sous l'égide des Nations Unies.
Allez, justement, on va prendre la direction de la Chine.
France Culture, Culture Monde, Tiffaine de Rocchini.
La Chine doit transformer son modèle de développement afin de passer d'une consommation excessive des ressources naturelles à une consommation raisonnable des ressources humaines.
La Chine doit passer à un nouveau modèle de croissance dans lequel les industries vertes et respectueuses de l'environnement auront une place importante.
Le Premier ministre chinois Li Keqiang lors du sommet franco-chinois consacré à l'économie et au climat, c'était en novembre 2015, un mois avant le début de la COP21. Bonjour Emmanuel H.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste au sein de l'IFP Énergie Nouvelle et directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On a entendu à l'instant les engagements de Pékin en faveur du climat et plus récemment, on a pu entendre la Chine appeler les États-Unis à respecter l'accord de Paris, premier consommateur mondial d'énergie, premier producteur d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que la Chine prend aujourd'hui ses responsabilités, Emmanuel H?
Écoutez, oui, j'ai envie de vous dire qu'elle prend ses responsabilités, mais elle les prend peut-être pas pour les raisons auxquelles vous pensez. C'est-à-dire que je vous ai entendu débattre notamment dans le cadre des négociations climatiques internationales, et j'ai envie de vous faire passer un message, c'est que la Chine, si elle s'investit autant en fait sur la question climatique, c'est tout simplement au premier abord pour répondre en fait à une demande intérieure. C'est pas forcément pour une question d'affirmation sur le grand jeu climatique international. C'est beaucoup plus parce que au niveau chinois, au niveau intérieur, on a un risque environnemental qui est majeur. On a un risque sanitaire qui est majeur et on a un risque de déstabilisation politique interne qui est majeur également. On a véritablement une demande sociale en Chine envers le climat et notamment envers la santé publique. Je vous prends juste, quelques éléments. On estime, il y a des études qui ont estimé qu'il y avait entre 1,2 million et 1,6 million de morts en raison de la mauvaise qualité de l'air en Chine, ce qui fait environ 17% des morts annuelles. On estime également qu'à Pékin l'année dernière, on avait plus de 179 jours de pollution sur l'année, ce qui fait environ un jour sur deux. Donc vous avez véritablement une demande sociale qui porte, la question écologique et la question climatique en Chine et qui est énormément relayée par les réseaux sociaux. Donc si Pékin s'investit sur les questions climatiques, c'est encore une fois en raison de problématiques plutôt intérieures au premier abord.
Donc il y a eu effectivement un effort massif que vous notez depuis quelques années, Emmanuel H. Donc il faut noter cette rapidité avec laquelle la Chine mène aujourd'hui sa transition énergétique. Depuis 2011, elle a doublé ses capacités de production d'énergie renouvelable qui sont désormais supérieures à celles de l'Europe. Et les efforts de la Chine semblent commencer à faire leurs preuves puisque depuis 3 ans, les émissions de CO2 de la Chine n'augmentent plus, ce qui constitue déjà une réussite énorme, même si elle est largement insuffisante étant donné l'urgence de la situation.
Alors c'est déjà une réussite énorme, bien évidemment. La Chine elle a opéré un virage écologique après 180 degrés. C'est ce qu'on appelle désormais, en fait, j'aime beaucoup cette expression. C'est un pays qui tend à devenir un pays COP modèle, c'est-à-dire véritablement qui va vers le sens de l'histoire et vers le sens des réussites climatiques. Après, encore une fois, donc c'est bien évidemment porté par la demande intérieure, mais c'est aussi ce que fait Pékin, c'est que Pékin, à travers sa politique environnementale, arrive à obtenir ce qu'on appelle une multiplication des dividendes. C'est-à-dire que derrière en fait la demande sociale, on va aussi gérer notamment une nouvelle offre économique. La Chine est en train de prôner ce que l'on appelle la civilisation écologique. Xi Jinping affirme que les Chinois seront la première civilisation écologique. Et donc ça mêle quoi? Ça mêle un angle économique notamment, construction de filières. On investit dans le solaire, on investit dans l'éolien. Donc on est en train tout simplement de créer des filières technologiques industrielles majeures. On investit également dans l'emploi. Le 13e plan chinois, c'est plus de 25 millions d'emplois dans les énergies vertes. À ce propos, la Chine a déjà basculé l'année dernière, en fait. Il y a eu plus d'emplois de créés dans les énergies vertes que dans le secteur industriel. Il y a une transition donc vers une économie de service, il y a la santé publique, et puis bien évidemment après tout ça, on a un dividende qui est celui du véhicule d'image internationale, où véritablement la Chine, elle est en train de devenir, j'allais dire, leader, d'affirmer un leadership sur les questions climatiques, mais quelque part c'est un peu malgré elle. C'est aussi parce que les États-Unis lui offrent un tapis rouge, et que l'Europe n'est à l'heure actuelle pas encore assez, j'allais dire, groupée pour créer, j'allais dire, cet effet, j'allais dire, de dynamisme, sur les questions climatiques.
Emmanuel H., il faut quand même nuancer un petit peu ce tableau. Le gouvernement chinois investit certes massivement dans les énergies renouvelables, mais il a quand même du mal à sortir du charbon qui assure encore aujourd'hui 60% des besoins énergétiques du pays. Et on voit que l'arrêt de la construction de nouvelles centrales est mal accepté par les autorités locales qui craignent une déstabilisation liée à la suppression de centaines de milliers d'emplois.
Oui, mais alors encore une fois, on a effectivement cette question de l'emploi en Chine. Sauf que le 13e plan chinois, il va véritablement aller vers les énergies vertes. Et alors effectivement, le charbon, c'est encore 60% du mix énergétique primaire en Chine. Et ce qu'il faut voir, c'est que on est dans un temps de transition énergétique. On est dans un temps très long. C'est-à-dire que la Chine, elle vise pas 2020 ou 2025 comme objectif. Hein. L'objectif chinois, c'est 2049. Hein. Vous savez, c'est le 100e anniversaire de la République populaire de Chine, et c'est véritablement ce qui guide à l'heure actuelle, en fait, à la fois le président et le premier ministre. Et donc, à court terme, effectivement, il y a des effets de transition, mais des effets de transition, la Chine est habituée. Elle est déjà en transition économique, elle est aussi en transition écologique. Donc, on a véritablement l'impression que la Chine s'investit, même si, effectivement, dans un premier temps, il y a des risques, j'allais dire, de problématiques notamment liées à l'emploi. Mais encore une fois, on peut compter sur le gouvernement chinois pour aller au-delà de cette problématique-là et pour impulser un nouveau mouvement, notamment sur tous les emplois qui sont liés à la cause environnementale, hein, notamment tout ce qui est lié aux applications iPhone, au big data. La Chine est extrêmement friande, en fait, de ces emplois qui sont liés indirectement, en fait, à la chose climatique.
Dans quelle mesure sont-elles liées à la chose climatique ?
Ben, elles sont liées à la chose climatique tout simplement parce que vous avez besoin notamment en Chine, hein, vous savez, c'est un pays qui mesure énormément, la concentration des particules fines dans les villes, les émissions de CO2, et vous avez énormément, et là encore une fois c'est une demande sociale, hein, énormément d'applications qui sont lancées pour avoir des signaux pour savoir exactement où on en est, en fait, de la pollution au niveau des sites industriels ou des villes.
Vous dites que la Chine prend ce leadership sur les questions climatiques un peu malgré elle. Selon vous, est-ce que Pékin a les moyens de mettre la pression sur les États-Unis sur cette question de l'accord sur le climat ?
Mais je ne sais même pas si c'est la question qu'il faut véritablement se poser. Vous savez, la Chine, elle est dans une optique à l'heure actuelle qui est plutôt celle de comment gérer de nouveaux biens publics ou de nouveaux biens communs. Il faut pas dissocier, j'allais dire, tout ce qui se passe en Chine à l'heure actuelle. C'est-à-dire ce que l'on observe sur le climat, vous l'avez également notamment dans son projet de route, de nouvelle route de la soie. C'est-à-dire qu'on essaye de faire du développement inclusif à tous les niveaux, c'est-à-dire dans le projet des nouvelles routes de la soie, on essaie tout simplement de relier Pékin à l'Europe, et on essaie surtout de développer l'intérieur de la Chine. Il faut quand même rappeler que la Chine, au contraire notamment des États-Unis, n'a pas complètement développé son territoire. Donc encore une fois, sa problématique interne prime sur tout le reste. Après, cette problématique des biens communs, c'est véritablement une façon pour la Chine de s'affirmer un tout petit peu différemment et d'affirmer un leadership, j'allais dire, géopolitique et mondial, qui est complètement à l'opposé des années Bush, notamment en termes de leadership à la fois militaire et économique. Donc oui, la Chine est en train tout simplement de s'affirmer différente sur ces questions-là, à la fois de manière climatique, économique avec les routes de la soie, mais aussi, on peut aller plus loin, au niveau financier. Lorsque vous regardez la réussite de la BA2I, c'est-à-dire la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures, c'est aussi une façon pour la Chine de s'affirmer. Vous le regardez à travers un leadership que j'allais qualifier de plus idéologique, notamment avec les instituts Confucius. Les instituts Confucius, c'est 510 instituts dans 140 pays dans le monde. Et donc, quelque part, le climat, l'environnement, ça fait aussi partie de la boîte à outils de la puissance chinoise, boîte à outils qui est composée de j'allais dire d'outils de soft power, et notamment on a la sensation que l'environnement il fait partie de cette gamme, de cette boîte à outils.
Vous vouliez réagir, David Levaille, sur cette question d'un leadership chinois et de la pression éventuelle qui pourrait être mise sur les États-Unis?
Non, c'est vrai que les États-Unis, la Chine, essaie d'adoucir son image internationale, de montrer notamment aux pays en développement que c'est un grand frère protecteur qui prend en considération aussi l'intérêt de ces économies-là à passer à du bas carbone. Mais il y a aussi ce que je voulais juste rajouter, c'est une vraie considération économique qui est le ralentissement de la croissance chinoise, et que la Chine a bien compris qu'il va falloir d'une certaine manière créer les conditions de cette croissance à l'export, à l'étranger, et contrairement apparemment au pouvoir américain ou une partie des industries américaines, la Chine a bien compris que un des signaux forts de l'accord de Paris, c'était le fait d'avoir enclenché cette transformation vers des sociétés moins consommatrices de carbone, et que donc le développement des pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, etc., ne passerait pas par la même trajectoire qu'a connue l'Europe et qu'a connue une bonne partie de l'Asie, mais directement sauterait le cap vers des énergies plus décarbonées, et donc ils veulent que ce soit un vecteur de d'attractivité économique, de croissance pour les entreprises chinoises, qui aient ce leadership incontesté dans le domaine et qui soient en mesure d'exporter très largement. Et effectivement, ce renouveau de la route de la soie est une manière aussi d'affirmer ce leadership là et de croître à l'export avec une dimension qui est plus écologique, mais qui est quand même très très drivée par l'économie.
Je voudrais qu'on dise un mot simplement de l'Inde, où l'enjeu est également énorme, l'enjeu de la transition énergétique. Il y a 300 millions de personnes en Inde qui n'ont pas encore accès à l'électricité dans le pays. New Delhi a investi massivement dans le solaire et ralentit le développement de centrales à charbon. On évoquait tout à l'heure l'importance du charbon en Inde. Est-ce que dans le pays, Emmanuel H, on pourrait réussir à sauter la case des énergies fossiles?
Alors, c'est une question qui est très intéressante, parce que, alors, elle l'est à double titre. Elle l'est aussi au regard notamment de votre question précédente sur la Chine, mais j'y reviendrai un tout petit peu plus tard.
Ah, on arrive à la toute fin de cette émission. Je vais vous demander.
Notamment dans l'investissement dans les capacités d'énergie solaire, hein, elle a un plan de multiplication par 25 de ses capacités solaires d'ici 2024, je crois. Donc c'est aussi un pays qui souhaite s'investir dans la décarbonation mondiale. Le problème, c'est qu'en même temps, l'Inde a lancé dès 2014 en fait un plan qui s'appelle le Make in India. C'est-à-dire, c'est un petit peu l'équivalent du Made in China de la fin des années 90, avec en corollaire un énorme plan d'industrialisation de l'économie indienne, qui ne va pas forcément de pair avec une trajectoire de décarbonation. Et lorsque vous analysez ce Make in India, vous avez effectivement une part qui est dédiée, à l'investissement dans les énergies renouvelables. Vous avez une part qui est dédiée notamment à la construction de smart cities ou d'éco-cities. Mais dans le même temps, on a quand même la sensation que New Delhi et Narendra Modi ont véritablement envie de remplacer la Chine dans les chaînes de production internationales. Et ça, c'est un petit peu le message contradictoire qu'envoie l'Inde, j'allais dire, au reste du monde. Alors, à contrario, c'est quand même assez intéressant.
Il nous reste juste quelques secondes, pardon, Emmanuel Hage.
Oui, juste, c'est que ça répond justement au plan Made in China 2025 de la Chine, qui lui veut monter en gamme et qui risque du coup de délocaliser une partie de ses industries polluantes en Inde. Donc, on a véritablement une problématique Inde-Chine sur le sujet qui pourrait être très intéressante à étudier.
Un grand merci Emmanuel H, un grand merci à Midaon et à David Levaille. Tout de suite, c'est l'heure du Tour du Monde des Idées avec Brice Couturier.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Tiffaine.
Où en est la mobilisation en faveur de l'Université centrale de Budapest, menacée, comme vous nous l'avez expliqué hier, de fermeture par le gouvernement de Viktor Orban ?
Eh bien, cette mobilisation ne faiblit pas. 50 000 personnes ont manifesté dans le centre de Budapest ce week-end, et cette nuit encore, Budapest a été le témoin d'importantes manifestations, au point qu'on peut se demander si nous ne sommes pas à la veille d'une nouvelle révolution de couleurs en Hongrie. Mais surtout, une chaîne de solidarité s'est mise en place qui mobilise de nombreux responsables d'enseignement supérieur à travers le monde entier. Le Financial Times a publié hier une lettre ouverte signée par plusieurs directeurs d'instituts spécialisés dans les études européennes, dont ceux de la London School of Economics, l'Université d'Harvard, University College de Londres. Mais le plus frappant, c'est le soutien massif que manifeste à la Central European University, la CEU, le monde universitaire hongrois, une preuve de courage, alors même qu'il vit sous la férule d'un gouvernement qui tend à resserrer sur lui son emprise. Les Hongrois sont fiers de compter sur leur sol l'un des plus prestigieux établissements d'enseignement supérieur au monde. Le Times of Higher Education classe en effet la CEU parmi les 50 meilleures universités du monde dans les domaines des études internationales et de la science politique. Bien des universitaires ont compris que le cas de la Central European University était emblématique. Ce sont des libertés fondamentales qui sont menacées de façon indirecte et sournoise par le gouvernement hongrois. Plutôt que de décider la fermeture pure et simple d'une institution qui lui déplaît, il préfère formuler des exigences nouvelles auxquelles il sait parfaitement que la CEU serait la seule dans le pays à ne pouvoir souscrire. C'est pourquoi les médias hongrois ont appelé l'amendement qui ne concerne que la CEU, l'ex-CEU. De quoi s'agit-il en effet ? D'exiger que tout établissement d'enseignement supérieur établi dans le pays, la Hongrie, dispose d'un campus dans son pays d'origine. Or, la CEU, hungaro-américaine, ne dispose pas d'équivalent sur le territoire des États-Unis. Le gouvernement hongrois entend en outre discuter des contenus de l'enseignement et des conditions d'admission. C'est intolérable. Pourquoi ? Eh bien, d'abord pour une question de droit. Comme le soutient Montesquieu citant Cicéron, la force de la loi ne consiste qu'en ce qu'elle statue sur tout le monde. Il fait référence à Cicéron qui, dans Des lois, écrit en effet « Nos aïeux n'ont pas voulu qu'on fît des lois sur les individus, car c'est là la dernière des injustices, puisque le propre de la loi est que ce qu'elle statue soit ordonné pour tous ». Fin de citation. La généralité et l'impersonnalité de la loi sont des exigences fondamentales dans un régime démocratique et libéral. Mais vous me direz que précisément Viktor Orban combat aujourd'hui un libéralisme dont il fut jeune, un vibrant défenseur à ses débuts politiques. Ensuite, parce que les universités sont le lieu de naissance des libertés européennes. Dès le Moyen-Âge, elles ont gagné leur autonomie face au pouvoir royal. Et comme le dit l'actuel directeur de la CEU, le fameux essayiste et politicien canadien Michael Ignatieff, dans une interview accordée à l'hebdomadaire Chronicle of Higher Education, lorsque nous tentons de définir ce qu'est la démocratie, nous pensons au règne de la majorité, à l'indépendance des médias, à celle de la justice, à l'équilibre des pouvoirs. Mais cela concerne aussi, et c'est crucial, l'existence d'institutions qui se gouvernent elles-mêmes sans interférence de la part de l'État.
Mais pourquoi Viktor Orban, qui est un ancien boursier d'un fonds alimenté par George Soros, s'en prend-il aujourd'hui aux ONG gérées par ce fameux milliardaire d'origine hongroise, dont fait partie cette fameuse université d'Europe centrale, Brice ?
Eh bien, réponse de Cass Mudder, qui a lui-même enseigné à la CEU dans The Guardian. Cette université est tout ce qu'Orban déteste. Elle est critique, mondialisée, indépendante et multiculturelle. Et John Shattuck, son ancien président et recteur, écrit de son côté dans le Boston Globe, il s'agit d'un assaut frontal contre les valeurs libérales essentielles à la démocratie et aux libertés universitaires. Et pour citer à nouveau son actuel président et recteur, Michael Ignatieff, la fonction d'une université est d'apporter à des jeunes gens de toute race, croyance, couleur ou origine ce qu'est le savoir. C'est aussi simple que ça, rien de plus, rien de moins. Dans un monde assiégé par la post-vérité, les faits alternatifs, l'esprit férocement partisan de droite ou de gauche, c'est tout ce que peut faire l'université. Et le savoir est extrêmement difficile à acquérir car c'est un terrain en proie à la contestation. Mais il y a des choses qu'on appelle des faits et le reconnaître est la seule manière de fonder une société société démocratique capable de faire des choix publics fiables. Fin de citation. La CEU n'a pas à trembler devant Orban. Si la Hongrie n'en veut plus sur son sol, eh bien d'autres pays se sont déclarés fort désireux d'héberger cette prestigieuse université. L'Autriche a fait savoir qu'elle était candidate. Car enfin, voilà une institution qui ne coûte rien au gouvernement hongrois, qui a recruté sur place 40% de son personnel, le rétribue et contribue fortement au prestige du pays à l'étranger. Ajoutons que le gouvernement américain, dont Orban espérait la compréhension depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, a manifesté de son côté son agacement. Selon Ignatieff, l'institution qu'il dirige est prise en otage dans une bataille géostratégique. Et il ajoute que la Hongrie, qui appartient à l'OTAN, doit choisir son camp, celui des régimes autoritaires ou celui des démocraties.
Merci Brice et un grand merci aussi à nos trois invités. Amida Han, directrice de recherche au CNRS, en duplex d'Avignon, David Levaille, chercheur à l'IDRI et Emmanuel H., économiste au sein de l'IFP Énergie Nouvelle.